Donc on va passer à la session 2, Corpus historique et IA, avec une présentation, c'est Amatis, c'est ça? Oui. Autour du repenser l'IA générative au service des sciences du patrimoine.
Ben merci au comité de nous avoir invités donc, pour parler de ce beau projet qui nous anime depuis quelques mois. Effectivement, pour en parler d'abord... effectivement, dire que c'est un projet qui a été soutenu par le réseau Elite de recherche à Nantes et pour financer en fait deux bourses de stage, donc la mienne et celle d'un collègue ingénieur qui n'est pas là aujourd'hui, sans excuse, dirigée par donc Florent Laroche et Ambre Villain, donc sur l'idée de questionner l'usage de l'IA, notamment de l'IA générative d'images. Ça va faire écho à des présentations qu'on a eues là, notamment sur les enjeux épistémologique que ça provoque, pour la reconstitution historique d'une église qui a disparu à Nantes, pour laquelle on n'a pas de vestiges archéologiques, on a simplement soit quelques sources iconographiques ou des sources textuelles. Et donc, effectivement, de questionner cet usage. Dans un premier temps... Ah, ça ne s'affiche pas. Donc, j'avais mis... Non, je ne pense pas que ça va s'afficher. C'était une vidéo normalement, mais bon, c'est pas grave. Je vais l'expliquer. Donc, effectivement, on voit un usage de l'intelligence artificielle génératrice d'images beaucoup sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu notamment des vidéos de points de vue. On a, par exemple, on peut voir le point de vue de Jeanne d'Arc dans sa vie, une journée dans sa vie, ou alors la vie d'un chevalier au XIIIe siècle, la journée d'un chevalier au XIIIe siècle. C'est juste pour vous montrer, effectivement, voilà, le point de vue d'un chevalier au XIIIe siècle, donc généré par IA génératrice de vidéos et d'images. Bon, le chevalier, il se lève le matin, il est en armure, il prend son petit déjeuner en armure. Voilà, donc c'est une vision du Moyen-Âge qui est évidemment fausse. Cette omniprésence de la figure du chevalier, de la guerre, voilà, il part la journée à 11h, il va se préparer à se battre. Donc c'est des points de vue qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux qui font énormément de likes et qui posent des problèmes, notamment de reconstitution. Et moi, ça m'a beaucoup questionné. Alors, je vais pouvoir revenir à mon PowerPoint. Voilà. Moi, ça m'a beaucoup questionné parce que c'est quelque chose qui me renvoie en fait à une vision. On a parlé de mémoire collective du passé. Bah, ça renvoie plutôt à une mémoire qui est celle du médiévalisme, donc une vision du Moyen-Âge qu'on appelle comme ça, nous autres médiévistes, c'est-à-dire une vision où on a une omniprésence de la figure du chevalier, avec notamment ce qui a servi comme base dans cette vision, c'est la peinture du 19e siècle, avec... aussi la culture populaire et avec des séries télévisées comme Game of Thrones dans lesquelles on a un Moyen-Âge qui est dépeint de façon très grise, de façon très violente et c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui irrigue ces grands modèles et ça m'a beaucoup questionné en tant que chercheur sur comment s'approprier ces modèles. Et du coup, on a voulu l'appliquer à une église qui a disparu à Nantes, qui est l'église des Cordeliers de Nantes. Et d'abord, pour vous donner un peu de contexte historique, donc c'était une des plus grandes églises dans la ville, qui avait notamment des décors vitrés notamment des tombeaux qui ont été documentés par l'historiographe Guénière. Et c'est à peu près les seules sources iconographiques que l'on a, donc ces fameuses planches de la collection Guénière avec des sources textuelles. Et là, on a aussi, par exemple, une archive qui permet aussi d'avoir une idée du profil de l'église, mais je reviendrai dessus parce qu'elle a quelques défauts. Et moi, j'ai fait un travail de recherche de mémoire sur une des chapelles de l'église, qui était la chapelle ducale, et pour lequel le seul reste archéologique, en l'occurrence, qui existe, est cette clé de voûte que j'ai notamment scannée. Le seul reste archéologique. Et j'ai essayé de produire donc des vues de reconstitution. Puis j'ai très vite vu avec ces IA qui sont arrivées de cette question de pouvoir passer directement à la reconstitution depuis un outil numérique plutôt que de passer effectivement par le dessin. Et on s'est posé donc la question dans quelle mesure les IA génératifs peuvent être adaptés à la reconstitution historique, et d'abord en regardant les modèles disponibles sur le marché. Donc, effectivement, si on donnait cette archive à un modèle généraliste comme ChatGPT 4o, on aurait l'impression de quelque chose qui est assez impressionnant du point de vue des formes, du point de vue des proportions. Mais moi, ça me fait particulièrement mal aux yeux quand je connais bien, comme je connais bien mon sujet, puisque en fait, le modèle va surinterpréter l'archive parce qu'il ne va pas se poser la question de qu'est-ce que cette archive à la base. En fait, c'est une archive qui montre l'église, mais elle a été coupée en deux. La rue qu'on voit qui passe là coupait l'église qui était plus grande, qui est donc coupée cette partie de l'église. Et en fait, l'IA surobjectivise la source et rajoute des contreforts pour terminer cet édifice qui est en réalité coupé en deux. Et les bâtiments que l'on voit sur la gauche sont des chapelles qui sont en fait, on a l'impression, transformées en logements, tout simplement, avec une rue qui passe. Et c'est encore plus visible quand on demande au modèle de utiliser donc ces dessins qui représentent des vitraux qu'il y avait dans l'église, puisqu'on a un rendu par ChatGPT qui n'est pas un vitrail. On n'a pas de panneau de verre. En fait, le modèle a simplement fait ce dessin avec une texture un peu vitrail, mais il ne nous a pas fait un vitrail. Puis on ne parlera même pas en fait, du traitement du visage, du traitement stylistique qui est plus proche en fait, de quelque chose qui semblerait proche d'un néo-gothique que vraiment véritablement du gothique. Donc on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on peut développer nous-mêmes notre propre modèle de génération d'images avec cette question, est-ce que l'IA, est-ce qu'elle peut devenir historienne? Est-ce qu'on peut avoir ce parti pris de lui insuffler une culture visuelle pour qu'elle génère elle-même des images et des hypothèses? Alors on est parti donc d'une pipeline où on a été assez ambitieux au début. On pensait qu'on pourrait, à partir donc d'une base de données d'images annotées, passer directement par l'IA et à la 3D. Sauf qu'en fait, en réalité, on a dû passer par une base de données d'images en 2D qui après passait par une IA qui les adaptait en 3D. Donc, ça a été déjà quelque chose qui a réduit un peu nos ambitions. Et puis, on ne pouvait pas passer simplement par les archives que l'on avait de cette église et de ces chapelles, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, on a dû utiliser un peu des méthodes de comparaison, c'est-à-dire d'églises qui ressembleraient à l'église au XVe siècle pour arriver à des hypothèses historiques. Et tout ça dans une base de données sur Omecares. Et donc là, je vais parler un peu à la place de mon collègue ingénieur. Donc, il a fallu donc mettre en place un corpus d'images qui a été annoté. Et en fait, on a utilisé ce corpus pour fine-tuner un grand modèle. Donc, en l'occurrence, ici, c'était Stable Diffusion. Et on l'a fine-tuné avec un fine-tuning de type LoRa, c'est-à-dire qu'on a réduit les annotations à 10 termes pour la description de chaque image. Et après, du coup, on fine-tunait donc ce modèle de diffusion qui était Stable Diffusion. Et donc moi, mon travail en tant qu'historien a été donc de nourrir cette IA sur la base d'images d'église qui serait en fait constituerait une sorte d'image spécifique d'une chapelle et d'une église au XVe siècle. Et pour cela, je l'ai structuré de cette façon, un peu en ontologie, qu'on a après structuré dans la base de données en SIDOC-CRM, parce qu'on n'avait pas le temps de vraiment créer une vraie ontologie. Du coup, on a fait une sorte de base de données qui montre un peu tous les éléments constitutifs d'une église et de ses chapelles au XVe siècle, c'est-à-dire d'un point de vue fonctionnel d'abord, c'est-à-dire un autel avec bien souvent un retable, des sculptures, des vitraux, des peintures, en se basant toujours sur ce qu'il y avait bien sûr évidemment dans l'église, donc des peintures murales, des sculptures. Et du coup, on a structuré de cette façon-là avec donc des images qui montraient plus généralement des chapelles, mais aussi des retables, des vitraux. Et on a fait notamment un travail plus approfondi sur les vitraux, je vais pouvoir en parler. Effectivement, ce qu'on a voulu faire comprendre au modèle, c'est quelque chose qui me semble est à la force de l'IA, c'est de pouvoir s'approprier des récurrences qu'il y a dans l'art, puisque l'art du vitrail au XVe siècle, notamment là ici, là donc ce vitrail que l'on avait dans les cordeliers, qui représente le duc François II de Bretagne en donateur, ces scènes de donateurs, ces typologies de scènes, elles sont très souvent les mêmes. C'est-à-dire là, vous avez comme ce vitrail au Mans, en fait très souvent les donateurs qui sont représentés à un registre inférieur du vitrail, toujours en bas, parce qu'on ne va pas les placer en haut parmi les saints, et avec eux surmontés au-dessus d'eux des saints, et bien souvent au-dessus de la personne, un saint qui porte le même prénom que la personne, puisque au Moyen-Âge, on porte un nom chrétien, un nom de saint. Et donc on pouvait imaginer que en fait, sur l'archive même de Guénière, en fait, on voit qu'il a coupé, on voit qu'il y avait deux petites scènes au-dessus, qu'il pouvait certainement y avoir des scènes de cette même façon. Puisque c'est de façon à 90% presque toujours les mêmes scènes que l'on a dans ces portraits de donateurs. Et donc on a un peu triché avec l'IA, c'est-à-dire qu'on a mis des images dans la base de données effectivement de général de vitrail, mais l'IA ne pouvait pas comprendre en général toutes les scènes, comment elles s'organisaient, et du coup on les a annotées. Et avec notamment des focus sur des images en mettant bien là on avait une image focus sur un donateur et après des images plus focus sur des saints et après c'était à nous dans la notation de mentionner à quel registre ça appartenait et évidemment au-dessus toujours de ces scènes de vitraux on a des anges tout au-dessus parce que c'est le ciel en fait c'est toujours la même façon il y a la terre en bas l'histoire et l'histoire sainte au milieu et toujours le ciel le jugement dernier l'avenir au niveau des registres supérieurs. Et aussi de faire comprendre d'un point de vue architectural une échelle qui est plus petite, notamment pour des espaces qu'on avait dans l'église qui sont des chapelles, puisque quand vous demandez à un grand modèle comme ChatGPT de reconstituer une chapelle, il va vous faire une église, tout simplement. Il ne comprend pas cette échelle d'avoir des espaces plus liminaux, plus latéraux. Et du coup, il a fallu donc avoir des points de vue de chapelle. C'était assez dur à trouver parce que en fait, les gens ne prennent pas forcément ça en photo. Ils prennent plutôt des grandes nefs, la cathédrale Notre-Dame, voilà, et sa magnifique nef. Mais des chapelles, moins. Parce qu'évidemment, on n'a pas eu le temps sur ces 6 mois d'aller acquérir nous-mêmes des images et de multiplier des acquisitions. Donc on a surtout utilisé Internet avec des images évidemment libres de droit. Je vais pouvoir en parler. Toutes nos images ont été vérifiées en termes de droit. Elles sont sous licence libre. Et on peut les retrouver dans notre base de données. On peut retrouver nos images donc, qui ont servi à l'entraînement. On peut retrouver nos annotations que vous voyez là donc, avec ce nuage de mots qui représente à peu près donc, les annotations qu'on a utilisées. Le tout sur Mockeyes et le tout donc, structuré ontologiquement. Et du coup, ça pose la question, est-ce qu'on peut faire confiance à nos images ? A priori, oui, puisque notre corpus donc, est accessible et il est traçable. Il est a priori aussi justifiable, puisque les images doivent déterminer un profil spécifique. Et donc, après, bah, voilà, on va arriver à ce type d'image qu'on va vous montrer par la suite. Mais on a aussi un autre type de critère de confiance, c'est qu'on a aussi voulu explorer des technologies qui permettent de forcer en fait, la génération d'images, donc de limiter les hallucinations. C'est tout simplement la technologie du contrôle. C'est-à-dire que là, par exemple, si on fournit un dessin, comme j'avais fait faire, de reconstitution de la chapelle, on l'a fait très simplement avec juste les voûtes, les baies, les piliers, un autel. Et donc, on donne ça à des IA qui sont capables de calculer la profondeur et les contours et qui vont après appliquer en texture en fait, les images de notre entraînement à partir de notre fine-tuning du modèle SDXL. Et donc, voilà, on arrive à ce genre d'image de reconstitution. Alors, il y a plein de choses qui piquent encore à mes yeux pour moi, mais c'est déjà quelque chose qui pourrait être intéressant par la suite. Et après, on peut encore utiliser des technologies voilà, bah, qui amènent vers de la 3D. Avec là, on a du Stable Virtual Camera. Et là, ça a coupé un peu, mais ah non, le modèle VGT. Voilà. Donc, pour arriver peut-être même aussi plus tard à de la photogrammétrie, toujours en partant de cette base d'une image 2D. Et il y a un point sur lequel je vais insister, qu'on a vraiment voulu développer aussi, c'est-à-dire c'est que c'est bien de faire tout ça, mais il faut pouvoir que ça puisse s'améliorer constamment. Et du coup, mon collègue a mis en place un cercle vertueux d'entraînement pour notre modèle, c'est-à-dire que moi, j'ai évalué les images que le modèle a générées et sur 5 critères, par exemple pour les vitraux, j'ai noté si le modèle avait bien compris la stylistique, avait bien compris l'iconographie, tout ça sur de 0 à 10. Et après, le modèle comprenait par un système de récompense ce vers quoi il devait aller plus. Et ça, c'est aussi des pistes qui peuvent être intéressantes effectivement, pour réentraîner nos modèles, et les faire évoluer selon l'avancée de la recherche, et aussi de traduire ces critères que l'on a pour reconstituer en signaux d'apprentissage. Et donc, par exemple, ici, si on demandait à ChatGPT de reconstituer Moïse sauvé des eaux, on a le même problème que comme j'avais montré au début, c'est-à-dire que ce n'est pas un rendu vitrail, c'est un rendu dessin. Et là, voici un vrai vitrail. Et voici ce que notre modèle fine-tuné peut faire. Alors, on n'a pas Moïse sauvé des eaux comme scène, parce qu'en fait, il y a un problème avec les entraînements, c'est que moins on a de scènes, moins le modèle il va comprendre effectivement... pour reconstituer la scène. Et là, donc, il n'avait pas compris quelle scène c'était, mais d'un point de vue stylistique, on se rapproche un peu plus de ce vitrail du 15e siècle, puisque le modèle a compris que la scène déjà était entourée de micro-architecture. Ça, c'est caractéristique de la peinture du 15e siècle. On a des panneaux de verre, donc on a bien des panneaux de verre. Et donc, c'est quelque chose qui est un peu plus intéressant, même si ce n'est toujours pas satisfaisant, selon moi. Et donc, la conclusion, c'est que... J'espère que cette méthode pourra être transposable à d'autres lieux disparus, puisque la force de cette méthode, ça serait donc de s'appliquer à des lieux pour lesquels on a juste effectivement des archives textuelles et iconographiques, et que par comparaison, l'IA puisse, à partir d'une culture visuelle, reconstituer. C'est, si on a un corpus, on a une validation, on peut arriver à de la reconstitution historique. De toute façon, il faut retenir que l'IA elle ne produit pas une vérité. C'est une visualisation interprétable, c'est les mêmes enjeux que la reconstitution, elle reste un ordinateur, parce qu'elle n'est que le miroir de statistiques que l'on a choisi de faire, de statistiques probabilistiques. Donc, voici un petit florilège d'images qu'on a pu générer. Des choses qui sont très intéressantes, notamment au niveau là, de cette niche, de cette piscine liturgique. Parfois des motifs qui pourraient ressembler à quelque chose de l'époque. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous a animés pendant quelques mois et on espère pouvoir continuer. Donc voilà, merci pour votre attention.
Merci pour la présentation. Question ? Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Merci, Patrick Bergeau du Centre des Monuments Nationaux. Alors, je m'interroge sur ce qui est les bonnes propriétés de la chapelle qui ont fait que vous avez pu réussir. Parce que nous, il y a un monument qui a été très détruit. On rêverait que vous sachiez le faire. C'est l'abbaye de Cluny.
Alors, vous voulez dire qu'est-ce qui a permis de nous dire que c'était cette telle proportion du point de vue de l'architecture ?
Qu'est-ce qui fait que sur ce type de monument, une chapelle, ça a pu marcher ? Parce que par exemple, vous avez dit que il n'y a pas de photo de chapelle, il y a des choses qui ont manqué. Ouais. Et qu'est-ce qui ferait que ça ne marcherait pas sur un autre type de monument disparu ?
En tout cas, moi, de mon point de vue, ça marche très bien. Pour moi, ça marche beaucoup moins pour l'architecture. Là, ça a l'air assez bien, mais il y a plein de problèmes, notamment au niveau des baies, comment elles sont représentées. Et de toute façon, on ne savait pas grand-chose sur cette chapelle, si ce n'est le fait qu'elle avait 2 voûtes, 3 baies, un autel. Voilà. Mais par contre, ça marche très bien pour les vitraux. Je trouve que dans un contexte sériel dans lequel on a en fait une iconographie qui va se répéter, un style qui va se répéter, en fait, comme on a parlé notamment des pièces de Monet, alors je ne sais pas si les pièces de Monet, ça me semble très souvent la même chose, ça marche. Mais dans un contexte où on a, par exemple je vous donne un exemple, si on a un retable, on ne va pas pouvoir, en fait, si on ne connaît pas le peintre, restituer quelle était la main, quelle était la patte de cette personne si on ne sait pas grand-chose. Donc il faut vraiment qu'on ait vraiment un contexte vraiment de production qui soit répétitif. C'est à mon sens ce qui est le plus probable. Voilà.
Maintenant, moi, j'ai une remarque. En fait, j'ai regardé les images que vous avez montrées, mais en fait, ça ne correspond pas à la réalité. C'est juste une apparence. C'est juste une apparence.
Oui.
Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant. Parce que finalement, vous parlez toujours d'IA, mais IA, c'est pas de la magie, il y a des algos. Donc, vous ne pouvez pas apprendre une image globalement, il faut prendre les composantes intérieures. Si vous voulez arriver à quelque chose, il faut une grande base. Maintenant, la question qui m'intéresse, vous, en tant qu'historien, vous intervenez où ? Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Alors, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'effectivement, comme j'ai dit, pour moi, pour l'instant, ça ne peut pas s'appliquer partout. Ça peut s'appliquer dans un contexte, comme j'ai dit, qui est répétitif. Parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, en fait. Et ce que ça m'a appris, c'est que il faut créer de grands corpus, malheureusement, qui sont... On parlait de synthèse tout à l'heure, ça synthétise un peu la pensée historique. C'est-à-dire que là, j'ai dû mettre notamment des images... En fait, il faut beaucoup d'images. J'ai dû mettre 700 images. Et j'ai dû mettre notamment des images qui ne sont pas dans le champ de production de cette chapelle. Mais qui, en soi... c'est caractéristique de l'époque, le 15e siècle, d'avoir des voûtes de cette façon, d'avoir des piliers de cette façon. Mais dans le contexte de la chapelle, on ne sait pas vraiment à quel point ça collait en fait, avec ce qui se faisait dans d'autres régions aussi, d'un point de vue général. Mais est-ce qu'il n'y avait pas plus une influence aussi du contexte local ? Et ça, ça m'a appris ça notamment. Voilà.
Merci pour la présentation. J'ai une petite question. C'était par rapport à votre corpus de données, à votre ontologie,
ouais.
Sur les images générées. Est-ce que vous pouvez dire ce claveau, cette partie-là, elle a été générée à partir de telle image ? Est-ce que vous avez la connexion entre l'image générée et la base de données d'apprentissage ?
Alors non, pas encore. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On aimerait pouvoir voir ce que le modèle, quelle est sa pensée, en fait, à quelle entrée il a utilisé, quelle image il a utilisé. On ne peut pas, si ce n'est quand le prompt qu'on a fait, il va faire forcément appel à ce qu'il y a dans le corpus de données. Si on lui dit, par exemple, Nantes, si on a eu des images d'édifices à Nantes, voire des choses qui, a priori, devraient être quelque chose qui fait partie de ce corpus-là, mais en soi, non. On aimerait pouvoir le quantifier, mais pour l'instant, on ne peut pas. Mais on a des pistes, on réfléchit.
Ok, merci. Vous pouvez, je pense, développer pendant la pause. Merci pour la présentation.